19h05. Il est pour l'instant 18h10 à Paris.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le flot ininterrompu des migrants qui arrivent en Grèce via la Turquie remet en cause le principe de la frontière Schengen. Des murs, des barrières se dressent, les contrôles aux frontières intérieures reprennent. Exclure la Grèce de l'espace Schengen ou imaginer un mini Schengen est régulièrement évoqué. Mais dans le même temps, tous les économistes prédisent que la fin de cet espace de libre circulation pénaliserait fortement l'économie européenne, sans parler des tracasseries au quotidien pour les travailleurs frontaliers. Un renforcement de la frontière extérieure via Frontex et la création d'un corps de garde-frontière et de garde-côte européen suffira-t-il pour sauver Schengen ? Bonjour Anne-Laure Ramilazzari.
Bonjour.
Vous êtes professeure de géographie à l'université de Grenoble et votre dernier livre, c'est tout un programme, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui ? Il est paru au PUF, aux presses universitaires de France. Hilbert Tonchini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors, par définition un institut très très européen. Philippe Juvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé LRPPE, LR pour les Républicains, PPE pour Parti Populaire Européen, qui regroupe tous les partis de droite au Parlement européen de Strasbourg. Thomas Lindon, bonjour, God tag, hey.
Bonjour, hey.
Vous êtes journaliste suédois, merci d'être en ligne de Stockholm. Alors Anne-Laure Ramilazzari, avant de parler plus avant de la frontière et de l'espace Schengen, j'ai envie de rebondir sur le titre de votre livre, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui dans un monde qui se veut ouvert et qui ne l'est pas tant que ça ?
Eh bien, la question mérite d'être posée effectivement, puisque une frontière aujourd'hui, c'est bien plus que ce qu'on voit sur les cartes, c'est-à-dire c'est ça n'est plus simplement une ligne qui délimite de territoires de pays, c'est une effectivement une limite de souveraineté, mais qui prend des matérialités complexes sous la forme de systèmes de réseaux, de bases de données mises en connexion, qui prend donc une forme beaucoup plus compliquée que celle à laquelle nous avaient habitué les planisphères.
C'est plus une guérite avec un douanier et puis une barrière qu'on lève, qu'on baisse de temps en temps.
C'est ça, en fait, quand on pose le problème de la frontière en termes de 1, j'ouvre, 2, je ferme, 3, je réouvre et 4, je referme, en fait, on est dans un binarisme qui ne correspond guère à la réalité, en fait, de cette réalité géopolitique.
Hilbert Tonchini, Schengen a été imaginé en 1985, mis en place 10 ans plus tard, en 1995. Aujourd'hui, cet espace de libre circulation concerne 26 pays et plus ou moins 400 millions d'Européens. Certains pays comme la Suisse ou la Norvège ne sont pas membres de l'Union Européenne, mais ont rejoint Schengen. Mais cet espace de libre circulation ne peut fonctionner que si la frontière extérieure, dite frontière Schengen, est efficace. Or, ce n'est pas vraiment le cas.
La frontière extérieure Schengen, comme vous dites, est actuellement confrontée à deux défis externes, eux aussi, hein, d'ailleurs, très très importants. Un afflux migratoire exceptionnel, hein, au sens historique du terme, avec à l'intérieur de cette migrants, beaucoup de demandeurs d'asile qui fuient des zones de conflit, des guerres, hein, partout, hein, autour de notre continent. Et puis de l'autre côté, une menace terroriste qui a donné lieu à des attentats, notamment en France en 2015, qui prend essentiellement sa source, hein, à l'extérieur de nos frontières, État islamique, ACMI, Al-Qaïda, etc.
Sans oublier les migrants économiques.
Je veux dire cela pour commencer, simplement pour dire que Schengen ou pas Schengen, on peut tout rétablir si on veut, mais il faut traiter ces deux problèmes à leur source. Que d'ailleurs, on est dans une situation un peu sadomasochiste. C'est-à-dire que de deux crises externes, on en déduit actuellement le retour à certains contrôles à nos frontières internes. Donc c'est le signe d'une certaine malaise dans la façon dont les États membres n'ont pas seulement des difficultés à faire face à ces deux défis, puisque ce sont des défis de très grande ampleur, hein, la menace terroriste d'un côté, l'afflux migratoire massif de l'autre, mais ont établi des relations fondées sur un niveau de confiance qui est aujourd'hui insuffisant et un niveau de solidarité d'autre part qui est lui aussi insuffisant. Alors, sur cette base, des solutions ont été proposées, notamment par la Commission européenne, et elles sont en train de se mettre en œuvre.
On va y venir, bien sûr.
Il y a en ce moment une course contre la montre qui est engagée entre le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, temporaire, c'est permis par Schengen, c'est possible, c'est une application de Schengen, non pas une suspension de Schengen. Et puis de l'autre côté, une européanisation du contrôle aux frontières extérieures, effectivement, il faut y travailler. Il y a une course contre la montre entre les deux.
Hubert Tonchini, quand Schengen a été créé, on peut dire il y a 20 ans, quand ça a été mis en place, c'était tout de même le beau temps géopolitique. Est-ce qu'on ne s'est pas davantage soucié de la liberté de circulation plutôt que de la sécurité des frontières extérieures? La menace était faible à l'époque.
Absolument. C'est vrai qu'on est confronté à des défis extérieurs d'une ampleur sans précédent, ou presque, parce qu'il y a eu la crise, la guerre en ex-Yougoslavie. Donc il y avait déjà eu à l'époque un afflux migratoire massif. Il y a aussi des attentats dans le passé, dans les pays qui font partie de Schengen ou pas, d'ailleurs, à Londres. Simplement, ça avait d'abord été conçu pour des raisons économique et social intérieur, mais qui reste tout à fait valide aujourd'hui. On a fait Schengen au Luxembourg simplement parce qu'on en avait assez, quand on était transporteur routier, de faire la file entre la France et l'Allemagne au pont de Kehl, et ça faisait perdre du temps et de l'argent, parce qu'on en avait assez quand on était travailleur frontalier de faire la file aux frontières tous les matins, tous les jours. Et ces raisons-là sont toujours valables, parce que les coûts que vous avez évoqués en lançant notre débat sont d'abord ceux-ci. Le coût qu'exposerait un retour effectif, parce qu'il n'est pas effectif en réalité, au contrôle systématique aux frontières intérieures.
Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Garder ou non la Grèce dans l'espace Schengen, la question est posée, notamment par certains responsables en Europe centrale. Et cette question, le quotidien allemand de Munich, Süddeutsche Zeitung, répond pourquoi la Grèce doit rester dans l'espace Schengen?
Parce que la Grèce, qui est le premier pays de l'espace Schengen où arrivent les réfugiés qui prennent désormais la route des Balkans et donc qui arrivent de Turquie, ce flux de réfugiés ne va pas faiblir et il faut trouver d'autres solutions qui n'accablent pas la Grèce, selon le journal. Pourquoi il ne faut pas accabler la Grèce? Premièrement, parce que c'est un pays qui lutte avec une situation économique difficile, et deuxièmement, parce que ça créerait une rupture de la cohésion européenne.
Plutôt que d'exclure, par exemple, la Grèce de l'espace Schengen, le Süddeutsche Zeitung imagine d'autres solutions, on va dire, plus douces.
Oui, et l'une d'entre elles, ce serait naturellement de confier la mission à l'Agence européenne de protection des frontières extérieures, Frontex, de lui confier la mission de protéger elle-même les frontières. Le seul problème est que, naturellement, la protection des frontières fait partie des prérogatives des États nationaux et que la Grèce n'est pas prête à livrer ses frontières complètement à Frontex. Donc la Süddeutsche Zeitung souligne qu'il serait important d'introduire un droit de codécision pour que la Grèce soit partie prenante de ce processus de protection de ses frontières qui sont en même temps les frontières extérieures de l'UE. Et au-delà de ça, il propose aussi de tempérer un petit peu la politique d'austérité qui pèse sur la Grèce.
Merci Daniel Renon, Courrier International, l'Hebdo et CourrierInternational.com pour lire cet article dans son intégralité. Philippe Juvin, au sein de l'espace Schengen, la Grèce, c'est le problème. Vous êtes membre des Républicains et Nicolas Sarkozy explique à qui veut bien l'entendre que Schengen, c'est fini. En tout cas, ça ne peut pas rester comme ça.
En fait, vous avez parlé de défis extérieurs, on les connaît, la vague d'immigration, les conséquences des guerres et de l'instabilité au Levant et en Afrique du Nord. Mais les défis extérieurs que nous vivons, qui sont très importants, ne sont rien par rapport aux défis extérieurs que nous allons connaître dans les décennies qui viennent. Pour parler de poussée migratoire, je vais vous donner un seul élément qui doit faire réfléchir. Le Nigeria, par exemple, aura en 2040 plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Donc ça montre bien que à situation identique, nous aurons une poussée migratoire qui ne va ne faire qu'augmenter. Et donc, ce que nous devons affirmer, c'est que premièrement, si nous faisons disparaître purement et simplement Schengen, non seulement ça ne réglera pas le problème, parce que qui peut croire qu'un pays tout seul, avec des douaniers même les plus efficaces, saura répondre à une poussée migratoire très importante, mais en plus, si nous faisons disparaître Schengen, cela coûtera très cher et ne sera pas efficace. Donc ce que nous voulons, nous, au PPE, au Parti Populaire Européen, c'est quoi? C'est surtout de ne pas faire disparaître Schengen, mais en revanche, pour sauver Schengen, il faut vraiment le refonder. C'est ça le message politique que nous portons. C'est quoi refonder Schengen? Ben, j'espère que nous allons en parler, mais c'est d'abord affirmer un point politique. Vous demandiez à ma collègue sur ma gauche, Qu'est-ce qu'une frontière ? Une frontière, c'est d'abord une affirmation politique. Et pendant des années, on n'a pas voulu affirmer que politiquement, l'Europe avait des frontières. Donc il faut dire que l'Europe a des frontières. Et l'exemple de la Turquie, pour laquelle on fait miroiter une adhésion tout en disant « mais non, ils n'entreront pas typiquement », montre que la question de la frontière européenne n'est pas terminée politiquement, et je pense que nous devons la fixer. Mais ça sera aussi, tout simplement, ces frontières, les protéger d'une manière efficacement. Donc ce que nous voulons, nous, c'est, ce n'est pas de supprimer Schengen. Non seulement ça serait inefficace, mais ça coûterait très cher. Et en plus, ça coûterait très cher en matière d'esprit européen. Et je crois que si nous démantelons Schengen sans le remplacer par quelque chose, nous mettons le doigt dans un engrenage qui peut conduire à la disparition pure et simple de l'Union européenne. Mais regardez l'euro. L'euro a dysfonctionné péniblement, mais enfin nous arrivons à le faire fonctionner. C'est pas pour ça qu'il faut supprimer l'euro. On sait très bien que la suppression de l'euro aurait plus d'effets mauvais, néfastes que son réaménagement et sa réforme, ce que nous avons voulu faire. C'est ça qu'il faut dire. C'est
donc que Schengen, on a compris besoin. Que de votre point de vue, évidemment, Schengen, il faut l'aménager et que l'Europe a quand même des capacités de résistance. Alors sur les 26 pays qui composent Schengen, 7 ont repris le contrôle partiel de leurs frontières intérieures, c'est-à-dire de leurs frontières à l'intérieur de la zone Schengen. C'est le cas de la Suède, Thomas Lindbom. Quand on vient du Danemark via l'immense pont suspendu d'Øresund, il faut désormais présenter ses papiers. C'est une conséquence directe de l'afflux des réfugiés et évidemment ça complique la vie des travailleurs et des habitants transfrontaliers, ça complique un petit peu la coexistence, l'existence même des relations économiques, touristiques et autres entre la Suède et le Danemark.
Oui, absolument, parce qu'il y a d'abord il y a 15 000 personnes qui tous les jours pour les raisons de travail traversent la frontière entre le Danemark et la Suède, au sud de la Suède. Et pour eux, avant, ça prenait 30 minutes de prendre ce voyage. Maintenant, en général, 1h30 chaque voyage. Donc, ça fait 3 heures tous les jours. Et évidemment, ça, c'est un gros problème. Et ça bloque aussi le développement commercial et touristique entre les deux pays. Parce qu'il faut savoir que le Danemark était en train de devenir comme une agglomération importante en Scandinavie. Et maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir si ça continue, ces contrôles des papiers d'identité.
Alors, cela peut être évidemment tentant de supprimer Schengen et de revenir sur ses frontières d'avant. Et les partis populistes ne s'en privent pas. Mais on voit bien qu'en 20 ans, les Européens ont pris l'habitude de se déplacer sans contrainte. C'est un peu ce que vous expliquiez entre le Danemark et la Suède, Thomas Lindbom. Yves Bertoncini, vous vouliez réagir.
Oui, parce que il a été évoqué déjà les enjeux en termes de communication politique. Alors, il se trouve que j'étais à Copenhague fin janvier et je suis allé vers le pont de l'Øresund. Ce que j'avais constaté avant d'aller à Copenhague, ça on peut le constater en France et ailleurs, c'est que quand les autorités nationales disent qu'elles vont fermer les frontières, elles mentent. Parce que ça, matériellement, c'est impossible. Ça a certainement des vertus rassurantes sur les populations, mais si on prend juste la France, il y a presque 3000 kilomètres de frontières terrestres. Même, comme l'a dit Philippe Juvin, avec tous les meilleurs douaniers du monde, il faudrait en mettre des milliers et des milliers, et ça n'existe pas, la fermeture des frontières. Mais où elles mentent encore, c'est quand elles disent, ce qui là, en revanche, est tout à fait possible, qu'elles rétablissent les contrôles systématiques à leurs frontières intérieures. Ça, c'est possible. En effet, comme je l'ai dit, c'est appliquer Schengen. La France est en train de le faire, là, parce qu'elle est face à la menace terroriste. La France n'est pas face à un afflux migratoire massif. Les demandeurs d'asile votent avec leurs pieds et ils ne viennent pas en France. En revanche, la Suède, le Danemark, oui, ils sont face à un afflux migratoire massif. Alors, les autorités suédoises puis danoises ont annoncé le rétablissement des contrôles systématiques. Et il est vrai qu'elles ont commencé par le faire. Et puis ensuite, elles ont arrêté. De la même façon qu'en France, il n'y a pas de contrôle systématique à tous les points de passage à la frontière franco-belge, qui sont bien trop nombreux. Parce que ça aurait trop de coûts, précisément, parce que nous sommes interdépendants. Mais alors, quel est le petit problème dans ce contexte pour Schengen, qu'il faut sauver, en effet ? C'est que, finalement, on communique à des populations sur l'idée que la menace vient de l'extérieur et qu'on sera bien mieux gardé quand nos frontières auront été rétablies. Et que, après tout, on pourrait se dire, ah bah, c'est pas si grave, puisque on nous a annoncé le rétablissement des frontières nationales, et vous voyez, c'est pas si grave ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas tant de dégâts et de coûts causés. Et pour cause, il n'y a pas tant de dégâts et de coûts causés. Parce que c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de contrôle systématique à l'heure où on se parle à la frontière franco-belge. Et c'est encore heureux parce qu'il s'agit de lutter contre le terrorisme en France, qui est une menace épouvantable, et qu'on n'a jamais arrêté un terroriste à une frontière, moi je ne connais aucun exemple, que malheureusement celui qui a essayé de partir de Paris, Salah Abdeslam, après le 13 novembre, il a été contrôlé à la frontière franco-belge et on ne l'a pas bloqué, parce que le défi face aux terroristes, c'est l'échange d'informations, la coopération policière, on a besoin d'espions et pas de plantons. Et donc, je dirais, attention, Schengen, c'est aussi cela. Schengen, c'est une boîte à outils pour la coopération policière et judiciaire. C'est aussi pour cette raison qu'il faut sauver Schengen.
Alors, Aminat Sarri, les frontaliers, les touristes et puis tout le monde, des affaires, mais pas seulement, le monde des universitaires aussi, ont besoin d'échanges. On vit dans une société ouverte qui implique que les frontières s'estompent, migration ou pas, terrorisme ou pas, à terme.
Non, elles s'estompent. Leurs fonctions évoluent. Le lieu d'implémentation de ces fonctions évolue aussi, parce que finalement, la plupart des contrôles aujourd'hui ne se réalisent plus justement par des plantons sur la ligne, mais en amont, en aval. On va contrôler les marchandises dans les ports d'où elles partent en Asie. Les Américains, les Français ont des mandats, en fait, des douaniers dans ces lieux d'origine des marchandises, et la frontière commence à des milliers de kilomètres de la ligne frontière. De la même façon, une fois que les gens sont rentrés ou que les marchandises sont à l'intérieur, on a des brigades de douane volante, mais on a aussi de la police aux frontières qui, aujourd'hui, agit très loin des lignes. Donc, en fait, la question du franchissement de la frontière, il ne se règle pas par une guérite qui s'ouvre ou qui se ferme au point de passage qu'on rétablira ou pas. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir et qui me semble excessivement important, c'est de ne pas fantasmer sur l'avant 1995, voire sur l'avant 1985. Les frontières européennes n'ont jamais été fermées. Il y avait des modes de contrôle aux frontières. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait Schengen? Parce qu'il y a eu une énorme grève des douaniers en Europe qui ont dit on ne peut pas gérer un tel trafic augmentant dans une Europe des libertés de circulation des marchandises, dans une Europe de libéralisation des échanges. Et c'est pour ça qu'on a fabriqué Schengen. Et je vous rappelle aussi, si vous alliez en vacances en Espagne, si vous alliez en Belgique pour tout un tas de raisons, il y avait des jours, comme c'est le cas, comme le rappelait Yves Pertoncini aujourd'hui, des jours où on contrôlait toutes les voitures et des jours où on ouvrait tout simplement parce que la file était tellement longue qu'il était hors de question de le faire. Donc on reste aujourd'hui, et on a des moyens accrus, sur des modes de contrôle aléatoires, algorithmiques, avec l'aide de machines, d'intelligence partagée, qui sont beaucoup plus complexes que simplement de dire qu'on ouvre ou qu'on ferme, ce qui est de l'ordre d'une démagogie assez élargie.
Philippe Juvin, moins de plantons, plus d'espions, vous êtes d'accord avec cette idée? Enfin, pour reprendre la formule
oui,
de...
moins de plantons, plus de renseignements, en tout cas, il faut plus de services de renseignement.
Mais
simplement, je voudrais rajouter une chose. On peut imaginer un monde, théorique évidemment, où chaque pays créerait une frontière avec des murs, des barbelés, de hauts grillages autour de sa frontière pour endiguer une immigration massive, etc. On peut techniquement, après tout, certains pays qui n'étaient pas très démocratiques l'ont fait. Est-ce que ça marche? Parce qu'après tout, pourquoi ne pas se poser la question? Eh bien, en fait, ça marche seulement quand vous avez peu de gens qui se pressent à la dite frontière. Mais quand vous avez 100 000, puis 1 million, puis 2 millions, puis 10 millions de personnes qui viennent, ça ne marche pas. C'est ça qu'il faut comprendre. À moins de dire, on va faire un mur de 10 mètres de haut, on va mettre des miradors, on va mettre des policiers armés, et ils vont tirer sur la foule qui se presse, là, effectivement, c'est un moyen d'arrêter l'immigration. L'argument de la rétablissement des frontières comme solution est un faux argument. Et c'est ça, moi, qui m'irrite dans le débat, c'est qu'on fait croire aux gens que la solution, elle est là. La solution est plus complexe. La solution, je vous dis, elle est qu'il y ait des politiques d'asile et d'immigration commune, ce qui n'est pas le cas. La solution, elle est, comme vous l'avez dit, qu'il y ait des échanges d'informations fiables entre les services de renseignement. Juste un renseignement sur Europol, qui est la base de données criminelle de Schengen. 50% des données sont fournies par 5 États simplement, ce qui montre bien que les États ne concourent pas à la base de données Europol. Il n'y a pas d'échange d'informations, c'est de la blague, ça
peut-être
ne marche pas.
Peut-être qu'ils n'en sont pas tout à fait conscients de ce besoin,
cas,
de cette nécessité.
En tout cas, ils ne le font pas et c'est une obligation. Donc on voit bien que jusqu'ici, ils ne remplissent pas leurs obligations. Et puis vous savez, tant qu'on n'aura pas stabilisé les pays qui sont aux marches de l'Europe, tant qu'il n'y aura pas des États, tant qu'il n'y aura pas des polices, des justices pour rendre le droit, des hôpitaux, des écoles, tant que tout ça ne sera pas stabilisé, vous n'y arriverez pas. Et donc moi, j'ai fait une proposition qui a le mérite d'une sorte de simplicité, c'est que chaque année, environ, l'Union européenne dépense une 50aine de milliards dans ce qu'on appelle des fonds structurels. On met de l'argent, etc. Ben, je vais vous dire, je pense que l'intérêt de l'Europe, plutôt que de construire une énième autoroute en Pologne, une énième ligne électrique en France ou au Portugal, grâce à ces fonds européens, l'intérêt de l'Europe, c'est de mettre cet argent d'une manière massive dans ces pays qui sont autour de chez nous et de faire en sorte que ces pays, on les stabilise. Parce que si on ne stabilise pas l'Afrique, vous pourrez mettre toutes les frontières que vous voudrez. En fait, la partie est perdue, complètement perdue.
La question est de savoir si 50 milliards sera suffisant. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos. Et on se retrouve dans 3 minutes, très exactement. À tout de suite.
Propos peu aimables à l'encontre de son entraîneur et certains de ses coéquipiers.
Spotkania europejskie.
Kruzymią tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Le flot ininterrompu des migrants qui arrivent en Grèce de la Turquie remet en cause le principe de la frontière Schengen. Des murs, des barrières se dressent, les contrôles aux frontières intérieures reprennent. Exclure la Grèce de l'espace Schengen ou imaginer un mini Schengen est régulièrement évoqué. Mais dans le même temps, tous les économistes prédisent que la fin de cet espace de libre circulation pénaliserait fortement l'économie européenne, sans parler des tracasseries au quotidien pour les travailleurs frontaliers. On l'a évoqué entre la frontière entre la Suède et le Danemark. Un renforcement de la frontière extérieure via Frontex et la création d'un corps de garde-frontière et de garde-côte européen suffira-t-il pour sauver Schengen? Je vous représente les invités qui ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Anne-Laure Amilat-Sari, professeure de géographie à l'université de Grenoble. Son dernier livre, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui? Au PUF, les presses universitaires de France. Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors. Philippe Chauvin, eurodéputé, Les Républicains, Parti Populaire Européen. Et Thomas Lindbom, journaliste suédois en ligne de Stockholm. Alors si Schengen fait débat, l'espace de libre circulation en Europe peut compter sur de vaillants défenseurs, les jeunes d'une manière générale qui voyagent beaucoup à travers le continent, et plus encore le mouvement des jeunes européens qui a lancé une campagne en français « Don't touch my Schengen ». Marie Alfonso a rencontré Jérôme Quéré, le président des jeunes européens à France, qui lui a expliqué comment s'est déroulée cette opération de sensibilisation.
Donc c'est une initiative du niveau européen de l'association qui s'est décliné dans plusieurs sections nationales, que ce soit en Pologne, en France, en Italie, au Royaume-Uni, et ensuite qui s'est développé dans les villes où nous sommes présents. Donc c'était tout d'abord une campagne sur les réseaux sociaux grâce à Thunderclap. Le même jour, à la même heure, tous ceux qui ont participé à cette campagne ont envoyé le même tweet pour défendre leurs valeurs et dire que nous étions contre l'arrêt de Schengen. Au total, 1327 personnes ont mis un tweet en même temps, à la même heure, et ça a atteint plus d'1 500 000 personnes sur les réseaux sociaux. Ça s'est décliné ensuite par des actions de rue où on arrêtait les gens, on leur demandait ce qu'ils pensaient de Schengen et s'ils imaginaient la fin de Schengen, si c'était pour, si c'était contre, etc.
Que représente l'espace Schengen pour votre génération?
Ça représente un espace de liberté, c'est lié à la mobilité pour les jeunes générations comme nous. Partir en vacances en Italie, en Allemagne, on prend sa voiture, on y va, et c'est simple. C'est logique de ne pas être arrêté à la frontière et de perdre des heures pour des contrôles. Lorsqu'on passe la frontière, ça complique la circulation, que ce soit pour les étudiants, pour les travailleurs. C'est quelque chose qui est vraiment un frein, et ce sera un frein, un symbole de liberté de l'Union européenne.
Est-ce que cette mobilité pour les étudiants ou pour d'autres citoyens européens, est-ce que c'est si important que ça ?
C'est important parce que l'Union européenne ne doit pas être uniquement économique. Elle représente autre chose, une communauté de valeurs. C'est un peu le vivre ensemble à l'européenne, cette liberté de circulation des personnes. Parce qu'avant tout, l'Union européenne, c'est un projet pour les personnes et pas uniquement pour l'économie.
C'est vrai qu'avec la crise des réfugiés, l'Union européenne se pose la question d'un frein en matière de libre circulation et d'immigration. Pourquoi le maintien de cet espace Schengen est-il important du point de vue des jeunes européens?
C'est important parce que ça représente une belle réussite de l'Union européenne. C'est un espace de liberté avant tout. Et même si la situation n'est pas parfaite, hein, on peut pas avec la crise des réfugiés, mais des améliorations sont possibles. Plutôt que de tout stopper et de faire un frein à l'Union européenne, il y a des possibilités comme ouvrir des centres d'accueil pour les réfugiés gérés par l'Union européenne au sein d'une politique d'asile commune. La création d'un parquet de l'Union européenne basé sur une force d'enquête et d'intervention pour lutter contre les crimes transfrontaliers et un renforcement du futur corps européen de garde-frontière qui a été proposé par M. Juncker.
Jérôme Quéré, le président des jeunes européens, avec Maria Alfonso. Alors, Schengen est-il réformable, comme l'imagine Jérôme Quéré, qui veut rebondir? On a déjà un petit peu abordé le sujet, Yves Bertoncini.
S'agissant du renforcement du contrôle aux frontières extérieures, il doit être réformé, et c'est en cours, si je puis dire. On a cité, face à l'afflux massif de demandeurs d'asile, la mise en place de hotspots. C'est décidé depuis assez longtemps.
Alors les hotspots, en un mot, ce sont des centres d'accueil et de tri.
Des centres d'accueil, d'identification, qui doivent s'installer notamment en Italie et en Grèce. Tout ça est prévu depuis longtemps. Là, il y a un déficit de confiance, parce que nos frontières sont en Grèce et en Italie, mais elles sont surveillées par les Grecs et les Italiens, qui ne le font pas forcément aussi professionnellement que nécessaire. Il y a donc un déficit de confiance qui est en partie comblé si des hotspots s'installent. Pour l'instant, il n'y en a que 3 qui ont ouvert, 2 en Italie, 1 en Grèce.
Et qui ne fonctionnent pas très très bien.
Oui, mais ça a déjà eu des résultats, parce que la Commission européenne, ce mercredi 10 février, donc il y a quelques jours, a sorti un document d'état des lieux. Et il y a par exemple un chiffre dans ce document sur l'enregistrement des empreintes digitales des demandeurs d'asile. Et la Commission souligne que le taux d'enregistrement était de 8% en Grèce en septembre 2015 et qu'il est passé à 78% en janvier 2016.
Alors, entre-temps, quand même, la Grèce a été menacée par la Commission européenne et un certain nombre d'États qui se disent « Attention, si ça continue comme ça, ça ne va pas pouvoir continuer
Absolument,
comme ça ».
Absolument, et c'est pour ça qu'il fallait réduire ce déficit de confiance. Alors, la meilleure façon de le résoudre, c'est donc d'envoyer sur place, et c'est aussi des actions de solidarité, des experts européens, parce que les hotspots, c'est de la solidarité. Ces pays sont victimes d'un afflux massif. Mais aussi, c'est une façon de s'assurer qu'ils font bien leur travail avec l'aide des Européens. Et au fond, le corps européen de garde-frontières, ça c'est l'étage suivant de la fusée, qui pourrait être mis en place, c'est Frontex qui renaîtrait de ses cendres, mais avec beaucoup plus de moyens financiers, 3 fois plus de moyens financiers, avec donc des moyens humains, y compris des bateaux que Frontex pourrait s'acheter au lieu de dépendre toujours des États membres. Et puis aussi avec des moyens politiques, c'est-à-dire en situation de crise, la capacité pour les Européens de décider à la majorité qualifiée d'aller envoyer le corps européen de garde-frontières dans les pays qui sont en grande difficulté, eh bien ça serait le prolongement de ce double mouvement qui est un mouvement de réduction du déficit de confiance d'un côté, mais aussi de réduction du déficit de solidarité, puisqu'au fond, on aiderait ces pays de manière directe. Je termine en disant que le déficit de solidarité que ces pays vivent, il porte aussi sur un mécanisme qui a été mis en place, c'est le fameux mécanisme de relocalisation des demandeurs d'asile. Parce que, ayant constaté qu'effectivement, il y avait quand même trop de demandeurs d'asile en Grèce, trop de demandeurs d'asile en Italie, et que si on appliquait les règlements de Dublin, là, il y avait un problème, parce que le règlement de Dublin dit les demandeurs d'asile doivent déposer leur demande dans le pays où ils posent le pied. Alors on a dit on va corriger ça. Mécanisme de relocalisation, 160 000. Mais les derniers chiffres de la Commission européenne montrent qu'à ce stade, plus de 6 mois après, on en est à 500. Oui. 500 sur 160 000. Et donc, il y a aussi un déficit de solidarité qu'il va falloir combler en même temps que le déficit de confiance sur ce point.
Thomas Lindbom, on ne peut pas accuser la Suède d'avoir un déficit de solidarité. Proportionnellement, la Suède a accueilli 160 000 réfugiés, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est vraiment le plus fort pourcentage si on rapporte ça à la taille de la population suédoise. Comment voit-on l'évolution de la situation à Stockholm et comment on imagine une évolution, une réforme, un aménagement de l'espace Schengen?
Ce que le gouvernement suédois demande, c'est que tous les autres pays de l'Union européenne aident la Suède pour accueillir des réfugiés en Europe. Et ce qu'on pense, c'est que nous avons justement accueilli 160 000 l'année dernière et probablement entre 70 et 150 000 pour l'année 2016. Et c'est pas possible et... Je crois que si on arrive à un moment que dans un an ou deux ans, rien ne se passera, je pense que les mesures que le gouvernement va prendre vont être encore plus dures qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, les mesures qu'a pris le gouvernement suédois, en tout cas, il imagine de les prendre, c'est de renvoyer 80 000 réfugiés voilà. Qui sont, on va dire, illégaux, c'est-à-dire ce ne sont pas de vrais demandeurs d'asile, mais des réfugiés plutôt économiques, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Et on ne sait pas comment on va le faire, parce qu'on ne sait pas où on va les envoyer, si c'est possible ou non, mais c'est au moins ce que le ministre des Affaires intérieures, il a dit ça l'autre semaine. Je voulais aussi dire que pour la Suède, c'est un peu la question de est-ce qu'on peut continuer à avoir une attitude généreuse vis-à-vis des réfugiés, ou est-ce qu'on va être obligé d'avoir une attitude dure et on ferme les frontières. Cette discussion est toujours ouverte entre les partis politiques et l'opinion non en Suède. C'est une question très importante, parce que nous, on a eu cette idée qu'on essaie d'être généreux, on invite pratiquement tout le monde qui veut demander de l'asile, au moins, en Suède.
Anne-Laure Amilat, ça arrive, vous vouliez réagir?
Oui, je voudrais réagir sur les différences qui existent effectivement au sein de l'Europe, d'abord dans le traitement de la demande d'asile et le traitement des résultats de cette demande d'asile. Effectivement, en Suède, on a eu sur les dernières années 10 asiles accordés pour 1000 habitants, quand en France, on n'en avait qu'un. Donc on peut pas, il faut faire aussi attention. Donc 1 pour 1000 en 2014, guerre plus en 2015 en France. Donc on fait faire attention aussi quand on parle d'Europe, à qui on se compare et dans quelles conditions on se compare, et faire attention aussi au fait que en Europe, on l'a vu avec l'Allemagne, mais finalement les différences sont plus nuancées qu'on l'imagine. Il n'y a pas une solution européenne pour tous les pays, qu'elle doit se décliner en fonction des réalités nationales. On va faire évoluer Schengen en faisant évoluer aussi d'autres politiques européennes, donc notamment remettre en cause très probablement la convention Dublin 2 qui stipule depuis donc 15 ans que la demande d'asile doit être traitée dans le premier pays d'accueil, et donc en l'occurrence pour la Grèce, une fois qu'on aura pris toutes les empreintes digitales, ça sera très bien, mais on n'aura pas résolu le problème des cours de droit d'asile en Grèce, qui ne sont pas aptes à traiter les demandes dans les proportions où elles se présentent aujourd'hui, et ce qui limite donc la protection des personnes. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et je rebondis très rapidement sur ce qui a été dit auparavant, sur le fait que l'autre élément de la politique européenne à faire évoluer, très probablement, c'est comme aux États-Unis, les subventions agricoles. C'est-à-dire que tant qu'on aura en France, en fait, une PAC qui finalement donne aux Africains accès à du riz, à du blé, etc., produits moins chers en Europe que chez eux, eh bien, il ne faudra pas non plus s'étonner du fait que les agricultures locales soient complètement désarticulées, qu'on achète un poulet breton ou brésilien moins cher à Dakar qu'un poulet africain, et que du coup, ces personnes-là deviennent soit des migrants économiques, soit des migrants politiques, en insistant, et je me permets de le faire, sur l'extrême difficulté qu'il y a à faire la part des choses. Quand quelqu'un part de son champ parce qu'il n'est plus cultivable, parce qu'il y a la guerre à côté, ou bien parce que les iniquités locales sont telles que la survie économique n'est plus possible, est-ce que c'est un migrant économique ou est-ce que c'est un migrant politique? Qui a la possibilité de le dire?
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour Exactement. De l'Europe, Schengen est-il condamné? Schengen est-il réformable? Nous sommes avec Anne-Laure Amilat-Sarri, professeure de géographie à l'Université de Grenoble, avec Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors, avec Thomas Lindbaum, journaliste suédois en ligne de Stockholm, et avec Philippe Juvin, eurodéputé Les Républicains, Parti Populaire Européen. Vous aviez envie de réagir, oui. Philippe
oui,
Juvin.
Oui,
il y a deux mots qui ont été mis en évidence. C'est à la fois le mot « solidarité ». Je vais prendre à mon compte les propos de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. On manque d'union dans l'Europe et on manque d'Europe dans l'Union. C'est un peu le cas si on regarde un petit peu le comportement des Polonais, des Hongrois, des Slovaques, enfin les pays d'Europe centrale et orientale. Et puis l'absence d'un droit européen qui s'applique à tout le monde, notamment ce qui concerne le droit d'asile.
Écoutez, moi j'ai plusieurs choses à dire à ce que j'en entends. D'abord, madame, je suis comme vous persuadé que la pauvreté, l'extrême pauvreté, les guerres, les instabilités géostratégiques, géopolitiques, en Afrique en particulier, au Moyen-Orient également, sont une cause importante de l'immigration, de pauvreté. Ça va de soi. Mais, en revanche, là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est sur l'autoflagellation traditionnelle qui consiste à dire que nous, les Européens, sommes responsables de la pauvreté qui règne en Afrique.
Je
ne crois pas que l'on puisse accuser l'agriculture française de causer la pauvreté de l'agriculture africaine. Je pense que les Africains sont aussi responsables de leur devenir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi qui suis un Européen extrêmement convaincu, je suis extrêmement triste dans ce débat parce qu'au fond, Schengen, c'est un bouc émissaire. Schengen n'est pas responsable de la situation actuelle, des politiques d'immigration nationale qui sont catastrophiques, du fait que quand on refuse l'asile politique à une personne sur le territoire national, en fait, il ne retourne jamais chez lui. Il a un refus sur l'asile politique, mais la proportion de refus qui retourne dans le pays d'origine est quasiment nulle. Et ce n'est pas Schengen qui est responsable de tout ça. C'est une sorte de nullité généralisée quand on applique ces politiques. Il n'y a pas de volonté de prendre les choses en main. Et à la fin, quand une crise survient, eh ben on dit, au fond, c'est l'Europe qui est responsable. Et c'est ça qui me rend extrêmement triste, parce que à jouer ce rôle, on va en fait détricoter l'Europe et la faire disparaître. On a très bien décrit, il y a beaucoup de modèles économiques qui montrent que le rétablissement de contrôles tatillons aux frontières nuit à la bonne marche de l'économie, le transport, les marchandises, les biens, tout ça est très altéré. Donc au fond, on va faire la peau de Schengen sans régler le problème, parce que le problème, il vient d'ailleurs, l'absence de politique migratoire, sur l'absence de couple franco-allemand. Et là, j'en veux beaucoup au président de la République qui, en fait, a abîmé le couple franco-allemand. Quand il n'y a pas de couple franco-allemand qui fonctionne en Europe, l'Europe ne fonctionne pas. C'est assez simple. On peut le tourner dans tous les sens. La démonstration en est encore faite aujourd'hui. Et quand j'entends dire que Madame Merkel va négocier avec les Turcs, ça montre bien que, au fond, c'est pas Madame Merkel qui devrait négocier, c'est l'Europe, c'est-à-dire le couple franco-allemand. La France a disparu, ne joue plus le jeu, joue un rôle, un jeu national, parce qu'elle pense qu'elle va rattraper quelques voix populistes.
Mais est-ce que tous les pays ne sont pas en train de jouer un jeu national?
Oui, absolument. Mais la France, ce n'est pas un pays comme un autre. Et la France, en tout cas la France que j'aime, c'est un pays qui a montré l'exemple, qui, avec l'alliance allemande, a souvent été l'aiguillon, a forcé les populismes. Bref, ce qui a été fait en Europe depuis plusieurs dizaines d'années, c'est parce que le couple franco-allemand l'a voulu. Aujourd'hui, le couple franco-allemand ne fonctionne plus, tout simplement parce que la France a disparu des écrans radars. Et donc, on va faire la peau de Schengen, parce que ça va faire plaisir aux populistes, parce que c'est une réponse qui est immédiatement affichable au journal de 20h, mais ça ne réglera en rien la question et ça aura des effets catastrophiques.
Alors, le calendrier électoral français-allemand ne va pas faciliter les choses dans le style d'une grande initiative du côté des Français et du côté allemand dans la refonte du tandem franco-allemand, Hubert Tancini ?
Oui, mais c'est pour ça que la dimension populaire des enjeux est importante. C'est-à-dire que moi, je salue l'appel des jeunes Européens pour défendre Schengen. J'attends l'appel des chauffeurs routiers, hein, parce que c'est eux qui paieront les pots cassés, les chauffeurs routiers et leurs entreprises, et les ouvriers qui travaillent dans leurs entreprises. Parce que derrière tout ça, il y a des merdes. Les touristes, bien sûr, également les frontaliers. Il y en a 350 000, hein, c'est juste en France, 350 000. Il faut que, j'allais dire, ces populations se mobilisent davantage, y compris auprès de leurs élus, parce que les élus qui aujourd'hui jouent un peu sur les réflexes symboliques, nos bonnes vieilles frontières, c'est très singulier dans un pays qui, avec la ligne Maginot, a quand même bien montré l'inanité totale de ce genre de dispositif. Mais il faut croire que ça marche, puisque des démagogues l'utilisent. Alors, si on part du principe que les populations, les peuples peuvent avoir, malgré tout, une forme de sagesse, y compris en période électorale. Après tout, on n'est pas obligé de parier sur le pire. En Allemagne, la population est tout à fait ouverte à l'accueil des réfugiés. Ils pensent que ce sont des victimes. Alors effectivement, c'est pas tout à fait le même son de cloche en France. Mais il y a quand même, pour être un peu moins pessimiste sur le couple franco-allemand, une conjonction d'intérêts. Pourquoi ? Parce que, au-delà des dynamiques populaires éventuelles, la France a tout à fait intérêt à être en pointe pour renforcer Schengen, parce qu'elle est confrontée à une menace terroriste épouvantable. Deuxièmement, l'Allemagne a tout à fait intérêt à renforcer Schengen parce qu'elle est confrontée à un afflux migratoire absolument exceptionnel. Et donc, main dans la main, peut-être pour des raisons tout à fait différentes, ils peuvent non pas seulement essayer de renforcer le contrôle aux frontières extérieures, parce que tant qu'à faire, même si la solution n'est pas à la frontière, il vaut mieux que ça soit aux frontières extérieures qu'on traite une partie des difficultés plutôt que de mettre en cause nos frontières internes. Bon, mais maintenant, ce qui est très important, y compris dans une perspective franco-allemande, c'est de jouer à l'extérieur. C'est pas les ministres de l'intérieur qui doivent monter en première ligne, c'est les ministres de l'extérieur et les chefs d'État et de gouvernement. Madame Merkel était effectivement en Turquie il y a quelques jours. Les pays de transit, c'est clé. La Turquie, on a aussi parlé d'Afrique, il y a eu un sommet UE-Afrique à Malte, on a aussi parlé des pays des Balkans, les pays de transit. C'est là que se jouera, en tout cas pour ce qui est de l'afflux migratoire massif, la solution à plus ou moins long terme des problèmes auxquels Schengen, comme un bouc émissaire, est confronté. Et puis, dernier mot, et y compris en franco-allemand, il faut traiter les problèmes à la source. Et là, la crise de l'espace Schengen, ce qui pourrait arriver à l'espace Schengen, y compris de funeste, nous rappelle que si l'Europe et les Européens ne s'unissent pas davantage pour peser, hein, du point de vue diplomatique et militaire, eh bien, ils subiront la situation extérieure dès que les Américains ne veulent plus leur prêter main forte. Et donc, le défi, c'est que l'Europe puissance doit se renforcer. Les Allemands aident les Français, hein, depuis les attentats du 13 novembre, y compris en Syrie, hein, de le combat qui est mené sur place. Il faut que les Européens, qui soient ou membres, nombre ou pas de l'espace Schengen, pardon, ça peut aussi concerner les Britanniques, même s'ils nous quittaient, il faut que de toute façon, ils s'unissent davantage pour peser du point de vue diplomatique et militaire, d'une certaine manière, c'est l'Europe puissance aussi, son renforcement, qui peut sauver Schengen.
Alors, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, on n'en prend pas tout à fait le chemin, néanmoins. Anneur Milazzari, d'un mot.
Simplement, la France, parfois, est novatrice et notre ministère des Affaires étrangères, par exemple, développe des accords dits ACTS, en fait, qui mêlent développement et sécurité sur les frontières ouest africaines, en étant persuadé qu'on n'aura pas de sécurité simplement dans l'armement, mais dans un lien fort, et c'est prouvé sur toutes les frontières du monde, entre coopération dans le domaine du renseignement, mais pas uniquement, et sécurité. Que la sécurité, ça ne se fait pas ex nihilo et plaqué de l'extérieur, et ça commence effectivement à la source, donc notamment dans les pays d'où proviennent les migrants potentiels.
Philippe Juvin, je sens que vous avez envie de réagir.
Oui, moi, j'entends tout ce qui se fait, le ministère, tout ça, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que la réaction de l'Europe et de la France, c'est une réaction trop faible et trop tard. Mais on est en retard de tous les trains.
Est-ce que c'est pas aussi la réaction de l'Europe, trop peu et trop tard?
Oui, mais vous savez, l'Europe, qu'est-ce que c'est? L'Europe, c'est une association d'États. Et quand on dit l'Europe ne fait pas, ça signifie en fait les États européens ont décidé de ne pas faire. Donc ne nous cachons pas derrière l'Europe quand on veut cacher nos propres insuffisances. Les insuffisances de l'Europe, ce sont les insuffisances des États. Et prenons l'exemple militaire. Nous sommes un continent qui désarme alors que le monde entier réarme. Il n'y a guère que deux armées capables de se projeter. Ce sont les Britanniques qui sont assez indépendants d'esprit, si vous voyez ce que je veux dire, et les Français, d'une manière extrêmement limitée. On ne peut pas ouvrir, le chef d'état-major des armées l'a déclaré récemment, de nouveaux théâtres. Nous sommes dans la capacité opérationnelle de le faire. Donc il faut réarmer et la France et l'Europe d'une manière massive pour pouvoir peser. Sinon, nous continuerons à avoir des armées qui sont des armées limitées, au pouvoir limité, et l'Europe redeviendra ce qu'elle a été après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une marionnette internationale qui sera maniée par d'autres grands, et en particulier les États-Unis. On le voit très bien en Pologne, les États-Unis ont repris les choses en main sur la frontière entre la Pologne et l'Ukraine en particulier, l'Europe est absente. En fait, l'Europe n'est pas une puissance, ne se vit pas comme ça, est en train de disparaître, parce que nous n'avons pas la volonté qu'elle existe, et parce que nous la donnons en pâture à tous les populistes, parce que c'est tellement plus facile de dire que c'est à cause de l'Europe.
Alors, d'un mot, le mini-Schengen, exclure la Grèce de la zone Schengen, comme on l'a dit.
Je ne sais pas s'il faut exclure la Grèce, tout ça, ce sont des solutions un petit peu médiatiques. Je pense qu'une des manières de refonder Schengen, c'est de rediscuter à quelques pays moins nombreux, peut-être un Schengen à deux vitesses, des règles différentes qui feront qu'au fond, nous n'accepterons dans Schengen que ceux qui remplissent les obligations pleines et entières du contrôle extérieur, par exemple. Parce que vous savez, moi je le vois à 28 mettre en place au Parlement européen une règle commune, c'est très compliqué. Le PNR, le fameux fichier de contrôle des passagers aériens, ça faisait 2 ans et demi qu'on y travaillait. Il a fallu les attentats de Paris pour que tout le monde se bouge, et en particulier que les députés socialistes, y compris français, acceptent enfin de céder à leur propre ministre de l'Intérieur. C'est Cazeneuve qui leur a cassé le bras parce qu'il ne voulait pas bouger. À 28, c'est compliqué. Donc à quelques-uns, ça sera moins compliqué, je pense, dans un premier temps.
Un dernier aller-retour avec Stockholm. Comment voit-on à Stockholm cette évolution de la zone Schengen? Il faut la maintenir coûte que coûte, il faut l'aménager. Qu'est-ce qu'on en dit à Stockholm?
Oui, nous sommes à la périphérie de l'Europe, dans l'autre périphérie de l'Europe, dans un sens. Et on voit là le nombre de réfugiés, et évidemment ça clive un peu le pays, la population. On peut dire que la montée de l'extrême droite est certainement due à cette évolution du nombre de réfugiés. En même temps, il y a aussi une forte opposition des gens libéraux et tolérants qui veulent que la Suède, qui est un pays riche, peut garder ou recevoir encore plus de réfugiés dans notre pays. On a les moyens de faire ça. Donc il y a un clivage entre deux positions. Une position qui dit aussi que si on reçoit encore plus de réfugiés, on aura une sorte de tension violente, même, pas une guerre, mais des violences physiques qui a déjà commencé un peu dans notre pays. Mais d'autres qui disent que c'est une question de bonne volonté, de travailler plus de volontaires, plus de ressources économiques pour résoudre les problèmes qu'il y a avec beaucoup de réfugiés. C'est un peu ça le débat en ce moment.
Yves Bertoncini, vous allez voir le mot de la fin en 30 secondes. Dans un contexte où le problème migratoire va reprendre de plus belle au printemps, avec la crise économique qui n'est pas jugulée, sans parler des menaces d'une nouvelle crise qu'on évoque notamment dans la presse, avec le Brexit qui menace lui aussi les populismes et nationalismes particulièrement vigoureux en Europe centrale, mais pas seulement en Europe centrale, sans parler donc des calendriers électoraux français et allemands qui ne faciliteront pas de grandes initiatives, comment essayer de résoudre au mieux ce problème, alors que la conjoncture, le théâtre des opérations n'est quand même pas très favorable.
Je crois qu'il faudra aller au fond du sujet, comme je l'ai dit, sur les deux défis hein, qu'affrontent les Européens. Donc la menace terroriste d'un côté et l'afflux migratoire massif de l'autre. Traiter tout cela d'abord à la source, ne pas faire de Schengen effectivement le bouc émissaire de nos insuffisances externes, diplomatiques, militaires. Se persuader que Schengen ou pas Schengen, admettons Schengen disparaît, mais la menace terroriste et le défi migratoire demeuraient entiers. Excluons la Grèce, très bien, mais de toute façon, il n'y a déjà pas de continuité géographique entre la Grèce et les autres pays de l'espace Schengen. Et si nous l'excluions, elle serait encore moins amenée à coopérer de bonne volonté avec nous. Donc, se garder des solutions simplistes et utiliser Schengen pour ce qu'il est, c'est-à-dire à l'intérieur, un outil qui organise la circulation fluide entre des millions d'Européens de toutes conditions sociales, et y compris des ouvriers, des travailleurs frontaliers, hein, c'est pas fait que pour les élites, Schengen. Et puis, utiliser Schengen pour ce qu'il est en termes de coopération policière et judiciaire. C'est un outil. Schengen, ce n'est pas un espace, c'est aussi un code, c'est une boîte à outils. Il appartient aux dirigeants des pays européens, pas seulement ceux qui sont à Bruxelles, de bien utiliser cette boîte à outils pour faire face à deux défis extérieurs qui demeureront importants effectivement tout au long de l'année 2007.
Schengen ou pas Schengen. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Anne-Laure Amilat-Sarri, je rappelle le titre de votre livre, Qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui au PUF. Réalisation Guillaume Munier. Pour écouter cette émission à RFI.fr ou encore mieux, les applis mobiles mais gratuites de RFI. Plus d'infos sur nos invités via la page Carrefour de l'Europe RFI. Sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desescales, où que vous soyez dans la zone Schengen ou en dehors de la zone Schengen, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde.